Géopolitique.
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Le 9 juillet dernier, à Asmara, l'Éthiopie et l'Érythrée créaient la surprise en annonçant leur réconciliation après une guerre qui aura fait plus de 70 000 morts de 1998 à 2000, suivie de 20 ans d'hostilité. Et le 16 septembre à Djeddah, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen Isaias Afewerki signaient un accord de paix en bonne et due forme. Un accord appuyé en coulisses par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Alors pourquoi cet intérêt pour la Corne de l'Afrique? La région est-elle en train de devenir un enjeu géostratégique majeur pour les pays du Golfe engagés dans la guerre au Yémen, dans une lutte d'influence avec l'Iran et un bras de fer avec le Qatar? La bataille pour le contrôle des ports de la mer Rouge est-elle déjà lancée? Cette paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée sera-t-elle durable? On en débat avec nos trois invités et je précise que cette émission a été enregistrée le 21 décembre. Sonia Le Gourielec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université catholique de Lille et enseignante à Sciences Po. Éloi Fiquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, et rédacteur en chef des cahiers d'études africaines. Et Gérard Prunier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant indépendant, chercheur émérite au CNRS et membre de l'Atlantic Council. Est-ce que cette réconciliation entre Addis Abeba et Asmara aura été, Gérard Prunier, l'événement majeur de 2018 sur le continent africain, d'après vous?
Oui, c'est possible, mais c'est presque aussi l'événement majeur du Moyen-Orient. Parce que ça change, comme vous l'avez dit dans votre introduction, ça change les rapports dans ce qui est Al-Fitna al-Kabira, la grande querelle qui divise le monde arabo-musulman. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il ne s'agit pas de pays arabo-musulmans, et donc que d'une manière ou d'une autre, même quand ils mettent le bout du doigt sur le bord de la balance, ils l'affectent. Et je pense qu'on pourrait même ajouter que vous avez entièrement raison sur la bagarre entre les Qataro-Turcs iraniens d'un côté et l'autre camp saoudo-émirati, mais ça va même encore plus loin parce que derrière, il y a le profil des États-Unis.
On va en reparler. Éloi Fiquet, c'est le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui a tendu la main au président paria de l'Érythrée, Isaias Afewerki. Pour vous, est-ce qu'Abiy Ahmed est la révélation de l'année 2018 en Afrique?
Oui, effectivement. Il a surgi de nulle part. Son ascension au pouvoir n'était pas du tout programmée, anticipée. Il y avait d'abord une première surprise, c'était la démission de Haïlé Mariam de Salègne, de son poste de Premier ministre en février de cette année. S'en est suivi des tractations, négociations internes à la coalition de pouvoir en Éthiopie, dont les pratiques sont très opaques, très difficilement déchiffrables. Donc chacun y allait de son pronostic sur ce qui pourrait ressortir de cela. On était à peu près certain que dans la nouvelle configuration, le peuple Oromo et ses figures dirigeantes allaient jouer un rôle important dans la reconfiguration des équilibres politiques.
On voyait... Et le Premier ministre est donc un Oromo.
Et le Premier ministre est identifié comme Oromo. Ensuite, il faut faire très attention à ne pas trop essentialiser ces désignations ethniques. Il est certes né en région Oromo, d'un père musulman Oromo, mais descendant quand même d'une famille de migrants des Hautes Terres du Nord. Sa mère est chrétienne Amara, donc il a aussi un profil complexe qui le fait participer à la pluralité du jeu politique éthiopien. C'est aussi un homme qui vient des services de renseignement. Et le poids des services de renseignement éthiopiens dans le contrôle des affaires politiques est important, et donc on peut analyser son émergence de différents points de vue. Mais en tout cas, c'était effectivement une surprise, et les annonces qu'il a faites, tant en politique intérieure camp politique extérieur, réconciliation avec l'Érythrée, libération de prisonniers politiques, libéralisation de l'économie, grande purge entreprise au niveau du secteur parapublic, etc., etc. Il y a quand même une série d'annonces, tout cela dans un discours extrêmement rhétorique, une rhétorique de l'amour, de la paix, de l'unité, qui ont changé radicalement le ton, le visage de l'Éthiopie. Ensuite, on peut se demander si sur le fond, les choses ont réellement changé.
Sonia Le Gourielec, est-ce qu'on peut parler d'accord gagnant-gagnant entre Addis Abeba et Asmara ?
Ah, gagnant-gagnant, je ne sais pas.
Qui gagne quoi avec cet accord ?
Je crois que l'Érythrée sort vraiment un peu... le président Isaias Afwerki sort gagnant de cette histoire, puisque finalement, il sort aussi de son isolement. Enfin, il commence à sortir de son isolement.
Oui, parce que l'ONU a levé les sanctions qui étaient
exactement
en vigueur depuis 9 ans.
Malgré tout, alors on a tous été très heureux, il se passe beaucoup de choses, on observe avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe dans la région, mais je pense qu'il faudra aussi aller au-delà de ces embrassades de façade. Il y a beaucoup de photos du Premier ministre habillé qui embrasse tout le monde, tous les dirigeants de la région. Je pense qu'il faudra aller au-delà de ça, parce que on a présenté pendant de nombreuses années l'Érythrée comme un État totalitaire, et je ne sais pas comment un État totalitaire sort de cet État, justement. Est-ce que c'est vraiment possible ? C'est reste le même président. D'ailleurs, on le voit, ce qui est assez caractéristique, c'est que la paix à Djibouti est aussi une paix un peu de façade. Ils se sont serrés la main, le président djiboutien et le premier ministre Afwerki, mais la question de la frontière n'est pas réglée. Les prisonniers djiboutiens ne sont toujours pas revenus et les djiboutiens sont très circonspects aussi sur ce qui se passe dans la région, en disant, est-ce que le premier ministre Abiy s'est pas un peu fait avoir au début par Afwerki ? Il est jeune, il s'est fait avoir par l'ancien de l'Érythrée. Et est-ce que là, il commence pas à se rendre compte qu'il est peut-être allé un petit peu trop loin ? Et donc, attention, il faut rester nuancé sur ce qui se passe quand même.
Gérard Prunier, votre analyse sur cet accord, qui gagne le plus ?
Écoutez, moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été mentionné par mes deux amis. C'est la rhétorique de l'amour. Et comme disait Sonia, il embrasse tout le monde.
Et alors, on le surnomme le Messie.
Oui. Bon, et là, ça rajoute une dimension, parce qu'évidemment, quand on entend ça, ça peut faire un peu rigoler, mais ça rajoute une dimension, qui est la dimension penté, c'est-à-dire pentecôtiste, c'est-à-dire évangéliste américaine, avec des moyens financiers considérables, et dans les négociations qui se sont déroulées à Washington, entre les Éthiopiens et les Érythréens, dans le bureau de Donald Yamamoto, qui était l'ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines à niveau intérimaire, mais qui avait été remplacé par un nouveau qui s'appelle Tibor Nagy, qui était comme lui un ancien ambassadeur à Addis Abeba. Les deux bureaux étaient attenants, mais il n'y avait pas de... Enfin, il fallait bien garder les choses chacune d'un côté. Et Monsieur Yamamoto, qui est un excellent connaisseur de la région, a... disons, contribuer à créer un climat de confiance ou d'influence mutuelle qui avait des liens avec certains milieux penté. C'est-à-dire que, et ça c'est la dimension américaine de la paix.
Voilà, donc il n'y a pas seulement à la manœuvre derrière l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, mais les Américains.
Ah bah à l'époque, les Arabes n'étaient absolument pas dans le coup. Mais pas du tout.
Et à quel moment se sont-ils raccrochés au wagon,
Ils se sont mis dans le coup quand Abiy est arrivé en disant « Pourquoi est-ce que Isaias touchait de l'argent des Émirats Arabes Unis alors que moi qui suis à la tête d'un pays de 104 millions d'habitants, je n'ai rien touché ?» Et donc qu'il s'est dirigé vers Riyad. Et que là, d'ailleurs, on lui a expliqué que, bon, on avait eu un léger oversight, on n'avait pas pensé, mais qu'il fallait d'ailleurs qu'il aille à Abu Dhabi et que c'est là que ça serait réglé. Mais tout ça, c'est venu après. Parce que la véritable négociation, elle s'est déroulée à Washington, et elle s'est déroulée avec quelqu'un qui est encore un acteur principal de la situation aujourd'hui, puisque après ça, il a été nommé ambassadeur en Somalie. Et c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien la région. Et la rhétorique de l'amour, parce qu'il ne faut pas oublier que M. Abiy est né musulman avec une mère chrétienne, Tawahedo, c'est-à-dire de la chrétienté orthodoxe éthiopienne, mais que lui, il est devenu pentecôtiste. Donc, il couvre la totalité du spectre, au moins sur le côté religieux, pas un peu ethnique, mais encore plus religieux.
Mais l'idée des États-Unis, c'était de renforcer le rempart contre l'extrémisme islamiste.
Oui, oui, mais pas uniquement. Également, parce que Dan Yamamoto a été ambassadeur à Djibouti, en Érythrée et en Éthiopie. Donc on peut dire qu'il connaît les pays de manière très proche. Il rêve d'une fédération de la Corne. Et c'est une sorte de grand dessein. Il faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, il y a plus de président aux États-Unis sur ce plan-là. Monsieur Trump est aux abonnés absents. Donc, il y a des gens comme Donald Yamamoto, qui est un véritable expert de la région, qui se lancent dans des poursuites politiques personnelles et qui, dans ce cas-là, d'ailleurs, sont un peu idéalistes. Mais certainement pas diabolique, comme les survivants du TPLF, c'est-à-dire les gens qui ont été au pouvoir dans les années de Meles Zenawi, sont en train de nous expliquer que les buts américains sont diaboliques, etc. Non, ils sont pas diaboliques, ils sont peut-être irréalistes, ça c'est possible, mais certainement pas diaboliques.
Éloi Fiquet, vous êtes d'accord sur ce dessein des États-Unis ?
Ce que j'ai pu observer à mon niveau d'analyse, c'est le poids important des communautés éthiopiennes dites en diaspora, notamment établies aux États-Unis d'assez longue date, et notamment dans la ville fédérale de Washington. Les Éthiopiens sont extrêmement nombreux à Washington, on en compte 250, 300 000. Et puis, on a pu assister ces dernières années avec la montée des technologies, des médias sociaux, une capacité de relais et de prise d'initiative depuis des acteurs de la diaspora vers des acteurs politiques éthiopiens, et donc avec des technologies de mobilisation, de coordination, de transmission de discours, hein, la rhétorique est très forte, dont on a vu vraiment l'impact sur la situation politique éthiopienne. Et ces dernières années, notamment, les Oromo, qui représentent en Éthiopie une majorité démographique, hein, sur environ 100 millions d'habitants, les Oromo seraient plus de 30 millions, c'est considérable, mais avaient un statut de minorité en termes politiques, très peu représentés, très peu influents dans la sphère politique. Et c'est à partir notamment des États-Unis que des acteurs de la diaspora, alors souvent des jeunes, alors ils sont américains, ils sont éthiopiens américains, mais de nationalité américaine, ont pu mettre en valeur leurs compétences de juristes, de journalistes, d'acteurs des médias sociaux, pour coordonner, créer des mobilisations qui ont été extrêmement efficaces depuis notamment 2015 dans la scène politique éthiopienne, les mobilisations Oromo pour protester contre l'agrandissement d'Addis Abeba au détriment de la région Oromo, et ensuite les protestations contre l'expansionnisme somali à l'est au détriment aussi là de la région Oromo. Ces mobilisations, contrairement à des tentatives de mobilisation antérieures, ont été efficaces, coordonnées et ont abouti à l'émergence de la figure d'Abiy Ahmed récemment.
Sonia Le Gourielec, par rapport à la position américaine.
Peut-être déjà rappeler que dans le passé, les velléités de redessiner certaines régions par les États-Unis justement n'ont pas toujours été très heureuses, et que bon, il n'y a pas que les États-Unis dans la région, il y a tout un grand jeu qui est en train de se jouer avec une présence des pays du Golfe, avec une présence importante aussi de la Chine, et bien sûr on a des acteurs locaux qui ont aussi leur propre agenda. Si vous parlez de cette fédération à des Djiboutiens, au mieux ils éclatent de rire, au pire ils sont très en colère, parce que c'est quand même un mythe fondateur de la République de Djibouti en 77, cette crainte de se faire envahir par ses voisins. Que la France avait signé un traité avec l'empereur éthiopien, et les Éthiopiens ont dit à la fin du 19e siècle, les Éthiopiens sont persuadés que le jour où les Français devaient partir, Djibouti était leur prolongement naturel. Djibouti étant en partie habité par des Somalis, les Somaliens pensaient que pour des raisons ethniques, ça leur appartenait également. Donc pour eux, c'est clairement pas possible. Et d'ailleurs, lorsque le précédent premier ministre éthiopien, Haïlé Mariam Desalegn, était allé devant l'Assemblée nationale djiboutienne en 2015, il avait appelé à une intégration plus forte, voire même une political integration. Ça avait fait un, sur le coup, personne n'avait réagi, mais dans l'opinion djiboutienne, ça avait fait un peu scandale. Et la réaction qu'ils ont eue en 2008 face aussi à l'attaque érythréenne, la surréaction, la haine qu'ils ont eue contre les Français qui n'avaient pas suffisamment réagi, montre que ce mythe est encore très prégnant. Et pour eux, parler de fédération ou de rapprochement avec ses grands voisins qui sont plus puissants que lui, c'est une véritable angoisse et c'est pas envisageable.
Et ils s'étaient opposés à la levée des sanctions de l'ONU. Ils avaient demandé à la France de voter contre et oui, leur espoir a été déçu.
Et d'où aussi le fait que le premier ministre éthiopien était venu en France, enfin il n'y a pas que ça, mais était venu en France, que apparemment Isaias Afwerki, le président érythréen, appelait à une présence plus forte de la France et de Macron dans la région, sûrement parce qu'effectivement on est membre du Conseil de sécurité et qu'on... On avait un vote sur cette question.
Gérard Prunier, depuis la réouverture de la frontière entre les deux pays, des milliers d'Érythréens ont demandé l'asile politique en Éthiopie. Est-ce que cela veut dire qu'ils ne croient pas au bénéfice de la paix ?
Je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont très réservés sur le court terme. Oui, ils espèrent, mais qu'on s'attende à un changement significatif dans un espace de temps limité, non. Je pense que les gens sont trop réalistes, ils ont été trop déçus aussi après 30 ans de guerre contre l'Éthiopie pour obtenir leur indépendance, de voir que tout le résultat, ça a été l'instauration d'une dictature qu'il est habituel de comparer avec celle de la Corée du Nord.
Bon, à juste titre ?
Oui. Oui, malheureusement.
Sans le nucléaire.
Ou sans le nucléaire, et puis sans peut-être l'efficacité technique qui va avec, mais avec une extraordinairement efficace organisation, vu les moyens mis en jeu.
Sonia, l'Érythrée invoquait jusqu'à présent la menace d'une agression de son voisin éthiopien pour justifier un régime très dur, un régime de fer, c'est ce qu'on dit souvent, avec notamment la conscription obligatoire et illimitée. Aujourd'hui, la menace n'existe plus, donc est-ce que ça veut dire que les choses vont quand même devoir changer ?
Alors, je pense qu'on sera tous les trois d'accord sur le fait que l'Érythrée est le point d'interrogation de la région. C'est là où on a le plus d'hypothèses et on a le moins de réponses. Comment ce type de régime peut évoluer ? Il n'y a pas de constitution. L'Assemblée ne s'est pas réunie depuis 2002. Il n'y a pas eu d'élection, le président n'est pas élu, il n'y a pas de journaux. C'est un véritable régime totalitaire avec, effectivement, ce mélange, cette fusion du privé, du public, de l'État et des personnes, des individus. Il n'y a pas de sphère publique. Comment ça peut évoluer ? Alors, effectivement, la justification du service national, donc civil et militaire, pendant une trentaine d'années, enfin de 18 à 45 ans, et on a le droit d'avoir le passeport que quand on a fait ce service national. Donc quand on nous explique que la frontière est ouverte, oui, mais il faut avoir le passeport. Donc il faut avoir fait ce service national qui se termine à 50 ans. Donc il n'y a plus véritablement de justification, effectivement, de ce service national et de cet état d'urgence permanent. Mais en même temps, l'État s'est construit sur cette guerre permanente. Ils ont fait la guerre avec le Yémen, avec Djibouti, avec le Soudan, depuis leur indépendance. Donc comment
l'État... Gérer un état de paix.
Exactement. En fait, ils n'ont jamais vécu en paix. Je regarde Gérard Prunier en disant ça. Mais comment ils vont faire la transition ? On ne sait rien du tout.
C'est même la paix est ressentie par le régime, par les gens. Bon, il n'y a pas qu'Isaias, il y a quand même un premier cercle de gens qui sont désespérément attachés à cette dictature. Bon, ce n'est pas très populaire, mais il y en a. Pour eux, c'était une folie. Et j'ai eu des gens qui m'ont dit, il a posé un revolver sur sa tempe. Maintenant, on attend à ce que... Qui va appuyer sur la détente ?
Et finalement, le régime s'est un peu ouvert ou est sorti de son du fait d'être banni de la communauté internationale, etc. Quand l'Europe s'est intéressée un peu au pays à cause de la crise migratoire, donc il y a eu un programme d'aide, etc., qui justifie un petit peu le régime érythréen, du coup, sans le vouloir. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'était un peu étrange, cet accord. Donc, on a permis au régime de perdurer un peu plus. Et puis, la guerre au Yémen a permis aussi aux pays du Golfe d'assurer un peu la survie du régime un peu plus longtemps.
On va y revenir dans la deuxième partie de Géopolitique. On va marquer une pause, le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à débattre de l'impact sur la Corne de l'Afrique, de la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée.
Géopolitique, Chantal Leroux.
Bienvenue dans la seconde partie de Géopolitique. Annoncée le 9 juillet dernier, la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée après 20 ans de guerre froide rebat les cartes dans la Corne de l'Afrique. Pourquoi la région est-elle devenue un enjeu géostratégique majeur? Pourquoi suscite-t-elle autant d'intérêt de la part des pays du Golfe, mais aussi des grandes puissances, Chine et États-Unis notamment? On continue d'en débattre avec Sonia Le Gourielec, maître de conférence à l'Université catholique de Lille, Gérard Prunier, membre de l'Atlantique Council, et Éloi Fiquet, maître de conférence à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Est-ce que la guerre au Yémen a été un facteur déclenchant de ce retour en force des pays du Golfe dans la Corne, Sonia Le Gourielec?
Oui, certainement. Enfin, c'est un ensemble de facteurs. L'internationalisation de la mer Rouge, bien sûr. Le fait que la Corne se trouve sur la route maritime de la soie chinoise, etc. Mais effectivement, la coalition organisée par l'Arabie Saoudite, donc qui réunit certains pays de la Corne de l'Afrique. Le fait que les Émirats ont reconstruit le port d'Assab, ont fait également une base militaire, une piste aérienne louée par l'Arabie Saoudite dans le cadre de la guerre. Je crois qu'ils sont aussi très présents au Somaliland, mais je pense que Gérard Prunier pourra en dire plus. Effectivement, il y a un retour des pays du Golfe aussi lié à la guerre au Yémen. Je crois qu'une fois, Isaias Afewerki avait dit justement, en parlant de la guerre au Yémen, on lui demandait est-ce qu'il y a des troupes là-bas ou quoi. Il avait dit, nous ne sommes ni pour l'un ni pour l'autre, ni neutres.
Finalement, on peut dire que l'Éthiopie et l'Érythrée ont échangé leur soutien à la coalition menée par l'Arabie Saoudite en échange de monnaie sonnante et trébuchante.
Oui, un peu. D'autant plus que, au départ, quand Abiy Ahmed a hérité la situation géopolitique locale des mains de son prédécesseur, l'Éthiopie était plutôt du côté qatari. Qataro-turco-iranien. Il y a des traits d'union, il faut se rappeler tout ça. Et il a très rapidement compris que, ça faisait pas partie du nouveau cahier des charges. Et il s'est précipité à Riyad.
Éloi Fiquet.
Ce que je peux noter comme historien de la région, c'est d'abord le savoir-faire en relations internationales, en tout cas des acteurs politiques éthiopiens. L'Éthiopie a été le seul État indépendant d'Afrique pendant l'ère coloniale parce que les acteurs politiques éthiopiens ont su anticiper la montée des impérialismes occidentaux, ont su négocier leur souveraineté, en utilisant d'arguments religieux. Le christianisme éthiopien faisait part égale avec les christianismes occidentaux. Gérard Prunier a évoqué tout à l'heure la question religieuse, qui est importante dans ces négociations globales, dans les discours entre ces acteurs. Abiy Ahmed a des origines familiales musulmanes. Quand il a rencontré Al-Sisi en Égypte, il a pu échanger quelques mots en arabe. Il y a comme ça des vecteurs symboliques importants. Et l'Éthiopie, les dirigeants éthiopiens de longue date savent négocier leur position, négocier leur souveraineté avec un multilatéralisme radical. C'est-à-dire, jamais l'Éthiopie ne s'est enfermée dans un camp, dans une alliance. Ils savent jouer plusieurs alliances en même temps et pouvoir retourner, adapter leurs alliances, jouer l'une contre l'autre, faire monter les enchères. Donc, dire l'Éthiopie a rallié le camp saoudien, alors peut-être temporairement, de façon opportuniste, dans les circonstances actuelles, mais je pense qu'ils savent opérer ce tour de force que, en même temps, maintenir des relations avec les Qataro-Turcs iraniens, avec la Chine, avec les États-Unis en même temps. Vraiment, les Éthiopiens, depuis très longue date, savent jouer de ces multiplicités d'alliances et apparaître comme, de toute façon, un allié indispensable, inévitable, dans la configuration géopolitique régionale.
Sonia Le Gourielec, est-ce que l'Érythrée pratique aussi cette politique du « en même temps » ou est-ce que là, il y a vraiment un changement d'alliance?
Non, beaucoup moins. Je pense qu'effectivement, c'est l'Éthiopie qui est la plus prudente dans ses alliances dans la région, alors que les autres ont tendance peut-être à un peu plus foncer tête baissée avec un allié ou un autre. Et c'est vrai qu'on a actuellement différents axes qui se mettent en place dans la région, à la fois un axe saoudo-émirati, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est peut-être plus le prince émirati qui commande et qui va de l'avant et qui pousse les Saoudiens. On a un autre axe qui est plus Qatar-Turquie. Et puis l'Iran est un peu moins présent, tout le monde a un peu rompu avec l'Iran, et je pense qu'il faudrait peut-être aborder le cas somalien, où c'est là que ces alliances créent le plus de conflits, et c'est vraiment la Somalie qui est caractéristique de ces alliances dans la zone.
Alors Gérard Prunier, la Somalie, les chefs d'État donc somaliens et érythréens se sont engagés en décembre à travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Ils ont rétabli leurs relations diplomatiques, mais pour vous, c'est une entente de façade.
C'est pas seulement ça, c'est que c'est le mariage de la carpe et du lapin. Parce que Isaias est un dictateur, un vrai. Il contrôle son territoire. Le président de la Somalie doit contrôler 20% peut-être du territoire de la Somalie. Le reste lui échappe. Il est entre les mains de milices claniques, d'insurgés islamistes ou de sous-États plus ou moins soumis ou pas, qui font semblant de lui obéir, ou même qui ne font pas du tout semblant, dans le cas du Somaliland, qui a proclamé son indépendance, même si elle n'est pas reconnue internationalement. Donc, les deux partenaires, on peut dire, sont dans des positions tout à fait hétérodoxes. Et par contre, le président de la soi-disant Somalie, enfin des gens qui ont le siège aux Nations Unies, lui, il rentre tout à fait dans cette idée de fédération dont Sonia nous rappelait avant la pause que c'était pas vraiment très bien vu des Djiboutiens. Et d'ailleurs, les Djiboutiens sont totalement contre ça. Ils sont arc-boutés contre. Alors que Farmajo, le président somali, lui, au moins, ça lui coûte pas cher, vu qu'il contrôle presque pas son territoire. Donc, à partir de son petit fauteuil, il peut prendre des positions qui le mènent pas à grand-chose. Mais symboliquement, oui, il est tout à fait pour cette fédération, alors que lui, sa propre élection a été achetée par l'argent de Doha, il est totalement dans le camp qatari. Alors c'est vraiment, encore une fois, une demi-carpe avec un quart de lapin.
Et le fait de s'opposer au Qatar n'est pas forcément bien vu des leaders régionaux somaliens qui sont opposés au président Farmajo.
Non, tout le monde a sa propre cuisine sur le feu. Par exemple, le Somaliland, qui s'est retrouvé dans les bras des Émirats Arabes Unis lorsqu'il y a eu la signature d'un accord concernant le port de Berbera. Ça, c'est toute la politique émiratie sur la mer Rouge et même allant beaucoup plus loin jusque vers l'Iran, de contrôler tous les atterrages maritimes. Et ils ont commencé par Assab et puis ils poursuivent, ils continuent à égrener le chapelet. À l'époque, j'en ai parlé avec l'actuel président du Somaliland, il m'a dit « qu'avais-je comme autre choix ?» Il n'est pas reconnu internationalement, il n'a pas d'aide, les Émiratis lui tendent la main, il la prend peut-être pas avec enthousiasme et joie, mais c'est toujours une main.
Je voudrais qu'on revienne sur la levée des sanctions de l'ONU par rapport à l'Érythrée. Elles avaient été prises, ces sanctions, parce que l'ONU accusait Asmara de soutenir les Chebabs somaliens, ce qu'Asmara a toujours nié. À votre avis, il y avait un soutien militaire d'Asmara aux Chebabs?
Absolument. Il y avait même une micro-armée érythréenne qui avait débarqué en Somalie. Et c'est d'ailleurs ça qui a amené l'invasion du territoire sud de la Somalie en 2006 par l'armée éthiopienne, ce qui était la manière pour eux de continuer à se battre avec les Érythréens sur un autre champ de bataille. Et ça a duré 2 ans, pendant lesquels l'Éthiopie a occupé ou tenté d'occuper une Somalie qui bouillait à gros bouillon et qui a fini par lui exploser, la marmite lui exploser à la figure, donc ils ont évacué. Mais bien sûr, et il y a de très nombreux officiers érythréens qui ont été capturés dans cette opération, et certains d'entre eux ont terminé en Pologne, à Guantanamo, dans les prisons secrètes de la CIA. On les a soit tués, soit peu à peu remis en liberté.
Et alors aujourd'hui, quels sont les liens d'Asmara avec les Chebabs?
Il n'y en a plus. Et justement, c'est ce que disait Sonia tout à l'heure, Isaias fonce tête baissée dans une direction. Boum, il se cogne sur le mur. Il arrête, et il repart dans une autre.
Éloi Fiquet, tout à l'heure vous mentionniez l'Égypte. L'Éthiopie est en train de construire le plus grand barrage hydraulique d'Afrique sur le Nil Bleu, ce qui inquiète évidemment le Caire, qui estime que l'eau du Nil, c'est une question de sécurité nationale. Le président Al-Sissi a reçu des assurances du Premier ministre éthiopien. Mais est-ce que la menace d'un conflit majeur autour de l'eau est pour autant écartée?
Il semble que les hautes ambitions affichées par le gouvernement éthiopien pour la mise en œuvre de son barrage avec des millions de mégawatts et tout cela, il semble que les projets aient quand même été revus sérieusement à la baisse et que l'Éthiopie a gagné avec ce barrage un moyen de négociation et un moyen de regagner sa place, une place prééminente dans le devenir économique du bassin du Nil.
Sonia Le Gourielec, le fait que l'Égypte soit dans le camp saoudien force les Éthiopiens à l'aménager?
En fait, je crois que le jeu était déjà joué parce que les vraies menaces, enfin les vraies tensions ont eu lieu quand je crois que c'était Morsi qui était encore au pouvoir en Égypte ou dans un conseil des ministres qui avait été filmé, on ne sait pas pour quelle raison, il avait menacé d'attaquer, de faire la guerre à l'Éthiopie s'ils continuaient leur barrage. Les Éthiopiens n'en avaient que faire et ont continué à construire leur barrage. Et voilà, il est terminé. Donc c'est terminé. Maintenant, il faut effectivement mener des négociations. Alors je sais qu'à un moment, il y avait des craintes que les Égyptiens aient une base dans le... c'était les rumeurs, hein, Radio Djibouti, Radio Corne de l'Afrique, des rumeurs que les Égyptiens avaient une base dans le nord de l'Érythrée pour pouvoir se préparer à attaquer le barrage si nécessaire. Bon, a priori, je suis pas sûre que ça a été véritablement confirmé, mais en tout cas, ils étaient proches des Érythréens. Et pour la petite anecdote, c'est vrai que moi, j'ai des contacts qui appellent Afewerki, donc le président érythréen, le Kadhafi de la Corne. Vous en déduisez ce que vous voulez, mais pour eux, actuellement, ils jouent les Kadhafi de la Corne de l'Afrique.
Gérard Prunier, on peut dire un mot du Soudan par rapport au changement d'alliance. Le Soudan a rompu ses liens avec l'Iran en 2016. Là encore, en échange d'investissements saoudiens.
Oui, et d'ailleurs, je rebondis sur ce que vient de dire Sonia. La base existait bel et bien, et elle n'était pas dans le nord de l'Érythrée, elle était dans le sud-ouest. Et ils recrutaient, d'ailleurs, des rebelles Béja. C'est-à-dire une population qui est à cheval sur la trifrontière, dont la plus grande partie est au Soudan, justement. Mais il y en a aussi en Érythrée. Parce que, bon, toutes ces frontières, hein, ça a été bricolé par les Européens au XIXe siècle. Donc, il faut pas... Les pauvres États-nations africains sont toujours à la course derrière leurs vraies frontières. Et d'ailleurs, personne n'est jamais d'accord dessus. Mais ça correspond pas à ce qui est écrit sur les cartes. Donc, oui, il y avait bel et bien une base égyptienne qui n'a jamais fonctionné, qui se préparait à une éventuelle guerre qui n'a jamais eu lieu. Bon, ça aurait été très difficile sur le plan logistique. Et donc, le Soudan est également impliqué là-dedans, parce que, par exemple, les Soudanais ont envoyé des troupes au Yémen, d'ailleurs, où eux, ils se battent. C'est un pays qui a essayé de jouer les deux côtés de la clôture, d'être à la fois en bon terme avec la Turquie et en bon terme avec les Saoudiens, en réclamant de l'argent aux deux et en étant en général payé ni par l'un ni par l'autre. Et d'où une situation de frustration qui, ces derniers jours, vient de se manifester par de graves émeutes à Atbara, au Soudan, parce que le Soudan en peut plus, que son économie est dans un état de délabrement avancé, et que à mendier à droite et à gauche, et ben on ne vous fait pas toujours la charité pour autant.
Alors, dernière question à vous trois. Est-ce que cette paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée va être une paix durable, selon vous? Au petit jeu des pronostics, Sonia Le Gourielec.
Il y a eu quand même des avancées assez fortes sur lesquelles on reviendra pas, on pourra pas revenir en arrière. Néanmoins, on a les mêmes acteurs. Il y a quelques années, moi, j'écrivais qu'effectivement le conflit Éthiopie-Érythrée était au cœur de la déstabilisation de la Corne de l'Afrique. On est en voie de pacification, mais le président érythréen reste là. Et pour terminer, le président djiboutien avait fait une biographie où il écrivait un chapitre qui s'intitulait « Le poison à Afewerki ». Et il rappelait que l'ancien président djiboutien lui avait toujours dit « Méfie-toi toujours d'Afewerki ». Et j'ai l'impression que le retrait djiboutien actuellement s'explique pour diverses raisons. Ils sont pas invités dans les sommets tripartites ou les bilatéraux qui ont lieu actuellement avec les acteurs de la région. Mais j'ai l'impression que c'est aussi parce qu'il y a une méfiance vis-à-vis d'Isaias Afewerki, qualifié aussi de Kadhafi de la Corne actuellement.
Éloi Fiquet, une paix durable ou pas?
Pour l'instant, moi, je m'interroge sur le maintien d'une paix interne en Éthiopie. Les tensions sont extrêmement fortes entre les différents groupes régionaux.
Oui, il y a eu des violences intercommunautaires qui ont fait une centaine de morts.
Oui, qui sont plus qu'intercommunautaires, qui sont vraiment, on parlait tout à l'heure de fédération à l'échelle régionale. L'Éthiopie est elle-même une fédération, et d'ailleurs l'organisation fédérale avait été conçue, pensée avec appui américain à l'époque, hein, en 1991, après la chute du régime militaire socialiste. Et on n'est pas dans des affrontements entre des petits groupes, on est dans des groupes de plusieurs millions de personnes, donc qui ont des dimensions véritablement d'État et qui cherchent d'ailleurs à s'autonomiser comme structure politique ayant leur capacité de prélèvement fiscal et leur capacité de gérer une administration des frontières. Et ce qui est actuellement en jeu, c'est une sorte de grand rebrassage de la question fédérale. C'est
parce que l'option de sécession est contenue dans la constitution éthiopienne.
Ça, oui, c'est une sorte de bouton nucléaire. Mais d'ailleurs, cette option a été activée, ce qui a permis à l'Érythrée de organiser son référendum d'indépendance. Donc il y a un précédent qui a été créé. Et actuellement, il y a une sorte de rapport de force généralisé qui se réorganise. Chaque groupe, en fait, comme il n'y a pas de carte officielle de la fédération éthiopienne, cette carte n'est jamais mise à jour, mais elle est constamment réajustée en fonction de rapports de pouvoir qui se jouent généralement à un niveau micro-local. Là, on assiste à une montée en échelle où ces rapports de force entre groupes nationaux éthiopiens se jouent vraiment sur des dimensions plus vastes. Et on voit donc une montée de conflits qui dépasse des micro-conflits communautaires, mais vraiment à une dimension beaucoup plus générale dans la réorganisation des circonscriptions politiques et des ressources qui vont avec. Et l'Éthiopie doit tenir ses élections en 2020, et on ne sait pas du tout dans quelles circonstances vont se tenir ces élections, et est-ce que ces élections vont mener à une forme de déstructuration du jeu politique sur des bases régionales et ethniques.
Gérard Prunier, vous êtes d'accord, la solidité de cette paix ou sa durabilité va dépendre de ce qui se passe, de ce qui va se passer en Éthiopie d'ici 2020?
Oui, et d'autant plus que je pense que la paix est durable parce que le danger que vient d'esquisser ou de décrire Eloi est réel. Et on ne peut pas imaginer un État en plein bouleversement intérieur qui se met à faire la guerre avec l'État d'à côté. Il est bien évident que plus il y aura de problèmes en Éthiopie, moins la guerre sera un risque. Donc je pense que c'est durable, et pour des raisons qui ne sont pas toutes très agréables, avec en plus la possibilité que la même chose se produise en Érythrée à terme, le jour où Isaias disparaît, par des moyens normaux ou violents.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été les invités de Géopolitique. Sonia Le Gourielec, maître de conférence à l'Université catholique de Lille. Vous avez coordonné un livre paru en 2017 chez Armand Collin, Notre monde est-il plus dangereux? Gérard Prunier, consultant, chercheur émérite au CNRS, membre de l'Atlantic Council. Et puis Éloi Fiquet, maître de conférence à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Et je signale que vous avez signé tous les deux, Gérard Prunier et Éloi Fiquet, Understanding Contemporary Ethiopia, paru chez Hearst, et un livre qui donc n'a pas encore été traduit en français. Merci à Pauline Leduc qui a réalisé cette émission, et à Yaël Co et Véronique Durand qui m'ont aidé à la préparer. À bientôt.